Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Corner s'est frappé vers le premier poteau. Le ballon traîne une fois, deux fois. Et le ballon rentre sur coup de pied arrêté. Encore. Et cette fois, c'est Amine Gouiri qui vient délivrer l'Algérie. Qui vient célébrer avec les supporters algériens. L'Algérie a refait son retard et mieux. L'Algérie mène désormais face à la Jordanie 2-1. Grâce à ce but d'Amine Gouiri.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme. C'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. On se régale depuis 18h. Si vous avez raté l'émission et que vous venez de la prendre en cours, déjà restez avec nous, on est là jusqu'à 20h. Mais surtout abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme. Vous refaites tous les podcasts, vous avez accès à tout. Et puis surtout on remercie aussi à 18h45 Brice Djadjedji, un ami de Rotten sans flamme, ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille entre autres, et surtout de la Côte d'Ivoire, d'être venu nous livrer ses impressions sur la Côte d'Ivoire. Il est optimiste.
Ouais, et il est très sympa, Brice Djadjedji. Ouais, reviendra si on lui souhaite. La Côte d'Ivoire a fait un bon parcours dans cette Coupe du Monde. 19h45, le quiz. Tous contre Rotten. Pas de Louis Gerbier ce soir. C'est Clément Brossard qui sera avec nous pour le quiz. Le cadeau est beau.
Ah ouais.
Téléviseur Philips 50 plus 9000.
Ah ouais, l'autre, ça peut pas être pire. Il a trop chaud.
Et il est de mariage, Louis Gerbier.
Ouais, c'est pas lui. Pas lui, j'espère.
Non, c'est pas lui.
Ah bon.
Ah, quand même. Magnifique cadeau, hein, cette télé. Image fluide et détaillée pour vos matchs, vos films, vos sessions de gaming. On l'embrasse, hein, Louis Gerbier. 32-16,
plus cher. Elle ressemble à rien.
Ou quiz au 7-32-16. On fera un débat autour de la formule de cette Coupe du Monde à 48, à 19h30. Ouais, est-ce que c'est d'accord? Bah oui, vous allez nous parler de tout ça. Les matchs sans enjeu, les troisièmes qui peuvent se qualifier avec 3 points. Est-ce que ça vous régale?
Vivement celle à 64.
Exactement. Mais retournons auparavant aux États-Unis. On va retrouver Xavier Grimaud qui est avec nous. Salut Xavier.
Salut messieurs,
salut Xav.
Pour une drôle de situation, à Seattle, dans la nuit de vendredi à samedi, va se tenir le match entre l'Iran et l'Égypte. Match particulier parce que le comité local d'organisation de Seattle a désigné ce match pour être le match des fiertés, représenter toutes les sexualités et mettre en avant justement tout ce qui se passe autour du combat LGBT+ autour de cette rencontre. Il y a un peu de tension, la FIFA s'en est désolidarisée, c'est le comté de Seattle, c'est bien ça, hein, Xavier, je dis pas de bêtises. Il faut que tu nous expliques un peu le contexte particulier autour de ce match.
Alors, c'est pas une initiative de la FIFA, hein, faut bien le rappeler, voilà. C'est une initiative du comité d'organisation de la Coupe du Monde de Seattle. Alors, chaque ville qui accueille la compétition, elle a son comité, puis elle met en place les festivités autour de l'événement comme elle le souhaite. Et pour Seattle, ça a été une évidence de mettre en avant l'égalité, l'inclusion et la célébration de la culture LGBT dans la grande fête qui est à Seattle pour l'accueil d'un mondial. Faut savoir déjà, pour petite carte postale, que Seattle est l'État de Washington. C'est une des villes les plus progressistes et pionnières dans la défense des droits homosexuels. Seattle, le mois de juin, c'est depuis des années dans la ville le mois des fiertés, particulièrement le dernier week-end de juin, où il y a une grande parade qui peut réunir jusqu'à 350 000 personnes. Alors la date de ce match des fiertés, elle était connue bien avant le tirage au sort, c'est ça surtout qu'il faut rappeler. Et c'est le hasard qui a voulu que l'affiche soit Égypte-Iran, ce qui a provoqué la colère des deux fédérations. Mais il n'y avait pas pour Seattle, il n'y avait aucune raison de changer la date pour Seattle en fonction du casting. La FIFA était d'accord avec ces célébrations autour du match. La fédération iranienne a notamment expressément demandé à la FIFA d'empêcher toute célébration ou référence au mouvement LGBT pour cette rencontre. On ne veut pas en entendre parler, c'est assez tendu. Et même chose côté égyptien, écoutez Mahmoud Essam et les journalistes aux médias égyptiens Yala Kora.
It's not illegal, we hate them.
Ce n'est pas légal, nous n'aimons pas ça, on a un problème avec ça et nous ferons tout ce qu'on peut pour mettre cette notion de fierté loin de nous. Nous n'encouragerons aucune action.
Alors il n'y aura pas de protocole FIFA différent sur cette rencontre, c'est bien ça qu'il faut comprendre à l'intérieur du stade, mais à l'extérieur du Lumen Field de Seattle ce sera autre chose, parce que pour ce week-end la ville elle sera aux couleurs LGBT, il y aura le drapeau arc-en-ciel avec de la musique, des concerts, et les drapeaux arc-en-ciel justement logiquement ils seront autorisés dans le stade si des spectateurs du match veulent en emmener. Le comité d'organisation nous assure, la FIFA le confirme, que le drapeau ne sera pas interdit, ce qui peut faire craindre des crispations. Mais écoutez Eda McLendon, elle est responsable de l'organisation de la Coupe du Monde à Seattle, et puis elle veut croire qu'il va ressortir du positif de tout ça.
Oui, l'Égypte et l'Iran font partie à travers le monde des 65 pays qui criminalisent le fait d'être gay. Donc nous y voyons l'occasion d'amener de la visibilité aux fans égyptiens et iraniens, de montrer à quoi ressemble une autre culture, montrer au monde ce que c'est que d'accueillir un méga événement comme une Coupe du Monde qui unifie les peuples en y célébrant l'inclusion pour unir au-delà de l'équipe que l'on supporte.
Voilà, ça ressemble peut-être à un vœu pieux. En tout cas, l'ambiance, elle sera à suivre autour et dans les tribunes du Lumen Field pour ce match égypte-Iran.
Merci Xavier. Tu l'as dit, le match, ça se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi. 19h08 sur RMC tout de suite. Parlons de Ligue 1 parce que la grande braderie a commencé à l'OM.
Ce matin, la braderie a à peine commencé que les acheteurs sont déjà là.
Tout le monde voit bien que le club est un peu à la croisée des chemins.
Pour chiner les bonnes affaires.
Il y a des changements qui vont s'opérer.
Bah vas-y, alors toi, donne des noms.
Non, mais je parle
de des noms.
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens.
Ah ben qu'est-ce que j'en pense, monsieur ? C'est pas de sa faute à lui, hein. C'est les joueurs qui jouent sur le terrain.
Pourquoi ils viennent à l'OM ? Parce qu'ils peuvent jouer que là, il n'y a que là qu'on donne du pognon. Il n'y a pas de projet, c'est de la connerie.
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste.
T'es sûr du niveau de Nanouinerie, là, j'arrive pas à le dire.
Après, moi, je dis, moi, je suis avec l'OM à 100%, mais après, celui qui gagne, c'est celui qui a le mieux joué. Qu'est-ce que je vais faire ?
Une équipe de chèvres avec des dirigeants bidons.
C'est jamais là, c'est qu'on roule.
C'est une équipe à la déroute.
D'ailleurs, l'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Ce club a peut-être besoin d'une forme d'apaisement aussi dans ses relations avec son environnement.
On essaie de nous faire avaler des couleurs, ça renforce
exactement
rien du tout. Ouais.
Ça commence à énerver. À Marseille, l'OM a 4 jours pour revoir sa copie. La seconde audition devant la DNCG prévue le 29 juin. 4 jours pour présenter un budget cohérent et respecter les engagements, à savoir des ventes de joueurs et une baisse significative de la masse salariale. Même s'il est à Boston, on ne le laisse jamais tranquille. C'est Florent Germain qui est avec nous. Salut Flo.
Bossé aujourd'hui. Salut Flo.
Salut à tous. Salut les amis.
Flo, merci d'être là. C'est cette problématique. Il faut faire des transferts, mais ces transferts tardent à s'enclencher parce que forcément, les joueurs ne sont pas forcément, ils veulent pas accepter n'importe quel projet.
Voilà, besoin de vendre mais pas envie de brader. C'est vrai que malgré ses difficultés financières, l'OM ne veut pas céder et accepter de baisser le prix de certains joueurs. Le plus emblématique, c'est évidemment Mason Greenwood. C'est l'un des dossiers chauds. On sait que l'AS Roma est très intéressé, mais le club italien est aussi sous les radars de l'UEFA. Et donc en parallèle, pendant ce temps-là, le clan Greenwood s'est mis d'accord avec un club turc, en l'occurrence Fenerbahçe. Donc ils sont mis d'accord, c'est-à-dire sur la durée du contrat, sur un salaire qui est très intéressant. Mais l'offre formulée par Fenerbahçe n'est pas du tout à la hauteur des espérances de l'OM. On parle d'une somme d'environ 30 millions d'euros, alors que l'OM en espère quasiment le double, entre 50 et 55 millions. On rappelle qu'il y a 40% du transfert qui sera reversé à Manchester United. En fait, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que l'OM est confronté à deux conséquences collatérales de ses déboires financiers, parce que les clubs acheteurs, et ça c'est vieux comme le football, ils savent que Marseille est en difficulté, que Marseille a besoin de vendre, et donc toutes les propositions sont revues à la baisse. Et même l'autre dégât collatéral, c'est que les joueurs qui appartiennent à l'OM, qui sont éventuellement en instance de départ, savent aussi que Marseille a des difficultés, et donc de leur côté ils se pressent pas, ils jouent leur carte personnelle, et même parfois ils essayent de logiquement mettre la pression pour partir à moindre frais. Donc c'est vraiment le dilemme de l'OM. Et d'ailleurs il y a un autre exemple, c'est celui de Pierre-Emile Højbjerg, puisqu'il y a des touche dans le golf, d'après nos informations concernant le milieu de terrain danois, alors que lui se voit plutôt jouer en Italie. Donc il y a un peu un bras de fer. Marseille aimerait le pousser à accepter des offres un peu plus intéressantes dans le golf, alors que le milieu danois, pour le moment, joue la montre et préfère attendre une offre en Italie.
Flo, merci. D'ailleurs, l'autre info de la journée, c'est qu'on connaît le nouveau naming du stade Vélodrome.
Ah bon.
Exactement, ce sera le CEPAC Vélodrome, la caisse d'épargne CEPAC, qui est un partenaire historique de l'OM depuis de longues années, et qui va verser un petit peu plus que ne le faisait Orange. Donc c'est un contrat de 7 ans avec donc la marque et la banque qui a des origines dans le sud de la France, qui est historiquement une banque du sud de la France. Donc il y a aussi un ancrage un peu local. Donc après le concert de Bad Bunny, on est très précis sur RMC, le 1er juillet juillet. Il y aura ensuite l'habillage et la préparation de la façade du Vélodrome. Et vous verrez un logo
C'est
rouge
Pâques,
avec donc les lettres noires CEPAC Vélodrome. Donc OM Strasbourg, première journée de championnat.
Au CEPAC Vélodrome.
Vous aurez peut-être votre ami Flo au micro qui dira bienvenue au CEPAC Vélodrome. Ce premier match de l'OM.
Sympa.
Et ce pendant 7 ans. Roten se chauffe ce soir. Est-ce que l'OM doit brader les gros salaires, Jérôme, 32-16 pour participer au débat avec
Ah bah brader, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. La DNCG est tombée hier. Alors la réduction de la masse salariale, ça dépend de combien. Si on a les chiffres, on les a pas vraiment.
Flo, on parle d'une réduction de moitié, c'est ça? Au niveau de la masse salariale, est-ce qu'il est
de la masse salariale?
Oui.
Je suis là. De la masse salariale, on est sur un montant d'environ 156 millions d'euros chargés. Et l'OM doit effectivement se donner un objectif d'arriver à minimum... Enfin, maximum, pardon, 80-90 millions. Donc, si possible, réduire quasiment de moitié la masse salariale.
Merci Flo.
Donc, il va falloir déjà brader les gros salaires. Il y a des mecs qui émergent à 400, 500 000 par mois, même plus. Donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale l'année d'après... t'es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines derrière après la différence avec les autres. Donc non, tu seras obligé de les brader. Et le problème de Marseille aujourd'hui, et ça se complique d'autant plus. Hein, c'est vrai que les nouvelles sont pas bonnes là depuis le début de semaine.
Ah là, oui.
C'est que les joueurs, bien sûr que déjà, c'est pas au club de décider ce que les joueurs doivent faire. Quand Hochberg il te dit je vais aller en Italie, il ira en Italie s'il doit bouger. Il ira pas dans le golf. Voilà, même si Marseille oui,
c'est lui qui décide.
Comme ça me paraît logique, on est passé par là. Tu vas pas obliger en plus un mec. Alors déjà à partir, peut-être que lui avait pas prévu, mais bon. Il est pas complètement bête, hein, Hochberg et d'autres, avec le salaire qu'il a aujourd'hui, financièrement tu peux plus. Ok, mais t'as un contrat. Quand il a signé le contrat à Marseille, il a mis le couteau sous la gorge à personne.
Non.
Parce que donc maintenant tout le monde doit assumer. Et le joueur, en effet, on peut parler de ses prestations, ne serait-ce que l'année dernière, qui sont pas à la hauteur d'un joueur avec ce standing-là. Mais peu importe, lui aujourd'hui, il doit aller voir ailleurs, il doit partir. Et je te dis que ils vont être obligés d'accepter une offre bien inférieure pour dégager son salaire. Mais Kondogbia, ça va être la même chose. Greenwood, aujourd'hui, qu'on annonçait à 40-50 millions. Je pense qu'il y aura pas d'offre à ce prix-là. Du moins pas dans un club, un championnat majeur en Europe. Donc c'est sûr, ça reste un bon joueur Greenwood, attention, mais les clubs qui veulent acheter Greenwood aujourd'hui, ils se disent "Ah Marseille, la situation."
Exactement.
Bah, écoute, c'est quoi, on va pas monter au-dessus de 25 millions. Écoute, c'est très bien. Après peu importe que à la revente t'as 40% à donner à Manchester United. C'est pas moi, encore une fois, c'est pas nous qui avons fait les deals pour accueillir Greenwood. Donc en fait, tu te fais rattraper par la politique d'avant. Et aujourd'hui, t'es obligé de trancher dans le vif. C'est pas bien, je vais te dire, parce que tu vas te séparer des gros salaires. Les gros salaires, c'est censé être les joueurs qui te permettent de rester à un bon petit niveau, même si l'année dernière, ils ont eu du mal. Et donc, tu vas faire avec du moins bien. Il va falloir tenter beaucoup de coups. Et à Marseille, en effet, c'est aussi risqué parce que il reste, même si les gens maintenant se sont fait à l'idée que l'Olympique de Marseille, c'est plus ce que c'était et que là, ils ont reperdu, si tu veux, 3-4 ans de construction qu'il y avait eu. Tu vois, ils sont redescendus d'un cran. Écoute, il va falloir essayer de trouver de la patience chez les gens parce qu'il va falloir en avoir. Parce que je te dis, en payant des joueurs beaucoup moins chers tous les mois, forcément, tu vas avoir la catégorie numéro 3 ou numéro 4.
Duga, est-ce qu'il faut brader les gros salaires à l'OM?
Tu vas pas avoir le choix, déjà. Tu vas pas avoir le choix. Il faut trouver des ressources. Ils ont pris un gros risque la saison dernière avec en prenant des joueurs entre guillemets surcotés pour l'OM, mais surtout surpayés par rapport à ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. Donc voilà. Après, moi, je signe aucune sonnette d'alarme. Je te le dis de suite. Il faut aller au plus pressé. Il faut essayer de faire au mieux. Donc voilà, le mieux, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que pour Greenwood, ce sera 20, ce sera 30, ce sera 40, ce sera 50? Eh bien écoute, ils font au mieux. Et en fonction de ce qui restera dans les caisses, aujourd'hui, la priorité, c'est de satisfaire la DNCG. C'est la seule et unique priorité. Autrement, le club pourrait être rétrogradé. Ne pensons pas que ça peut arriver qu'aux autres. Donc aujourd'hui, l'OM est dans une situation très, très, très alarmante. Donc il faut parer au plus pressé. Et moi, comme je l'ai déjà dit, on avait déjà eu ce débat avec Jérôme et je crois que c'était avec Eric Dimeco. Eh bien écoute, l'OM repartira de la base et puis fera comme l'Olympique Lyonnais. Et vu que tout le monde n'attendra rien de la prochaine saison de l'Olympique de Marseille, si ce n'est une année de transition, une année compliquée, une année dans le doute, une année avec des petits joueurs, une année avec des petits salaires, une année avec un renouveau. Eh bien écoute, on n'attendra rien. Et c'est peut-être quand on n'attendra rien qu'il se passera quelque chose d'intéressant. On n'en sait rien. On attendait tellement de cet Olympique de Marseille les années précédentes qu'il ne s'est rien passé. Donc imagine. Donc voilà, aujourd'hui, le football, moi j'ai appris à relativiser avec le football. Est-ce que c'est ce qui est arrivé au Girondins de Bordeaux qui m'a appris à relativiser? J'en sais rien. Ouais. Mais voilà, il faut prendre les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a eu des risques qui ont été pris, il y a eu des choix qui ont été faits, cautionnés par l'actionnaire majoritaire, cautionnés par les uns, les autres. Voilà, et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il va falloir revenir à la base. Tout ça, c'est souvent au détriment des supporters, c'est au détriment de beaucoup de choses. Mais il y a une triste réalité qu'il va falloir accepter. Et surtout, pas la refuser. Il faut pas faire un refus d'obstacle. Là, il faut pas se chercher des excuses. Hein. Il faut pas faire du textor.
T'es mis dans le fait accompli et tu dois assumer tes responsabilités, bien sûr.
Exactement. Il faut assumer les responsabilités, nommer ceux qui ont fait les conneries, nommer les choses comme elles ont été faites avec toutes les catastrophes que ça va engendrer. Et puis chacun devra assumer, en prendre ses responsabilités. Voilà. Moi, écoute, j'ai été surpris. Donc je sais pas si Flo est encore là. Moi, j'ai été surpris de voir que devant la DNCG, le président, il est arrivé avec 20 minutes de retard. Il avait rendez-vous à 9h30, il est arrivé à 10h10. Ouais. Donc déjà, j'ai trouvé
les embouteillages monstres à Paris. Hein.
Voilà, bien sûr. Donc il y a eu des embouteillages monstres. Et normalement, j'ai vu Lyon, ils sont arrivés avec une armée de fiscalistes et d'avocats, de machins, de ci, de là. Et lui, il est arrivé tout seul avec un mec en visioconférence.
Et avec Alban Juster, le président intérimaire, sachant que c'est ce que disait Jean-Michel Larquet hier. Stéphane Richard n'est pas officiellement président encore. Il le sera le 3 juillet. Il n'est pas officiellement président.
C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que tu vas expliquer à la DNCG qui attend des faits concrets, qui attend une réalité des choses pour une situation catastrophique? À une situation catastrophique, mesure exceptionnelle. Pas du tout. Non, l'OM, non, on y va comme ça, la fleur au fusil, tranquille, peinard. Et on espère quoi, prier la canne bière? Mais qu'est-ce que la bonne mère, pardon. Je dis, mais c'est quoi cette bêtise là? C'est où on va là? C'est l'impression que c'est même pas pris au sérieux de la part des dirigeants marseillais. Donc c'est dire comment la situation aujourd'hui, elle est très alarmante, oui.
Ben, est-ce qu'il faut brader les gros salaires? T'as pas le choix.
Exactement, c'est ça, comme l'a dit Duga, il n'y a pas le choix. Donc tu dois faire avec. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de passer à DNCG, d'assainir la situation financière du club et de repartir avec les fondamentaux, les bases. Et puis c'est pas impossible de ne pas réussir. Mais en tout cas, il faut donner satisfaction à la DNCG. Ouais. Après, par contre, ils vont avoir du mal à imposer à tel ou tel joueur d'aller à tel ou tel endroit.
C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça le plus dur.
C'est un rapport de force où il faudra bien calculer la chose que tu peux espérer. Lui, Højbjerg, il va aller en Italie. Mais peut-être qu'ils auraient beaucoup plus en Arabie Saoudite. Mais si je vais aller en Italie, ça va être compliqué de l'orienter vers l'Arabie Saoudite.
Il faut qu'il parte.
Jérôme, souviens-toi le discours qu'on a eu du directeur sportif de Lyon, là. Comment il s'appelle?
Oui, Mathieu Louis-Jean, bien sûr, excellent.
Mathieu Louis-Jean, il nous a expliqué que la bénédiction de Lyon, ça a été la DNCG. La DNCG, ils vont tout assainir. Ils vont dire, voilà, mais arrêtez les rigolades. Vas être obligé de repartir et d'avoir des bonnes idées. Et tu vas être obligé de tout bouger le derrière et d'arrêter de surpayer des mecs et d'aller te battre pour aller recruter le joueur qui va peut-être te donner le sourire. Et ça va être ça va être un combat permanent. Tu vas revenir à la base et repartir au charbon et arrêter de faire de te prendre pour l'OM encore de vainqueur de la Ligue des Champions, de ma chaîne, de ci, de là. Tu vas repartir comme un petit club à la base. Il va falloir trouver des solutions. C'est peut-être une bénédiction.
La seule chose à ça, du gars, c'est là, ta réflexion, elle est bonne sur Lyon, parce que c'est un peu la même stratégie que va avoir à faire l'OM et Greg Lorenzi. Mais
c'est même pas une stratégie, Lyon, quelque chose d'imposé.
C'est une stratégie, c'est une prise de risque. Lyon est tombé dans le mille, ouais. C'est vrai. Mathieu Louis-Jean, il a senti les coups partout et ça a pris. La greffe a été bonne, mais aussi parce que la greffe, il y a un chef d'orchestre qui est l'entraîneur. Et je pense que déjà à la base, c'est important, quelle que soit la qualité des joueurs. Bien sûr que Lyon n'avait pas à la base les meilleurs joueurs du championnat ou les meilleurs joueurs européens. Mais il en a transformé quelques-uns. Ouais. Et ça, c'est important d'avoir la même stratégie avec l'OM et d'y arriver. Parce que si tu n'y arrives pas, dans un club comme l'OM, avec la pression populaire... Ouais. Peut-être que les gens vont pas forcément laisser le choix.
Mais Jérôme, il faudra pas se tromper sur l'entraîneur. Et moi, je vais même te rappeler une deuxième chose. Ouais. Si la DNCG avait fait ce qu'il fallait pour Bordeaux, on n'en serait pas aujourd'hui là où on en est. Je te le dis. Plus, si à un moment ou l'autre, s'il a fallu taper. Et si la DNCG avait tapé au moment où il le fallait, je peux te garantir qu'aujourd'hui, on ne serait pas en national en 4e division.
Hein. Ah ben oui,
il serait pas.
Exactement.
Les choses auraient été restructurées depuis bien longtemps. Je ne sais pas comment nous, on a réussi. Alors, je suis pas dans les petits papiers, mais ça a été terrible, un scandale que la DNCG ne nous rétrograde pas avant et ne prenne pas des sanctions bien avant.
Et valide des budgets complètement hallucinants sur des simples promesses, ça c'est sûr.
Ah ouais, exactement. Tu donnais des salaires à Benoît Costil et d'autres, ça c'est tombé.
Tiens, accueillons Christophe. Tout de suite. Christophe avec nous au 32-16, Jérôme, Rotten sans flamme.
Ouais, Christophe.
Ouais, bonsoir messieurs, bonsoir Jérôme.
Salut Christophe.
Salut Christophe. Bon, alors, les nouvelles sont pas réjouissantes, mais bon, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Alors moi, je vais juste avant de commencer, je vous prends deux secondes, je veux faire une dédicace au club du RC Today qui a été champion de Meurthe-et-Moselle vétéran, championnat gagné. L'année des 50 ans, et une petite dédicace à l'ES Saint-Michel dont je suis le.
Les jeux contre Carnac, vous verrez.
Voilà. Il y a un défi vétéran qui est lancé par Ben Costil à Carnac.
On a été fier du doublé cette année. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il va être. Merci, les gars. Moi, je dis juste qu'il faudra être très prudent dans ce qu'on va faire, parce que brader, ok, si on n'a pas le choix, comme vous dites, il va falloir être prudent, parce que si on brade Greenwood, si on brade Hochberg, si on brade Bouhiri, ça reste quand même des plaies de l'Olympique de Marseille sur cette saison, même si la saison n'a pas été bonne. On finit cinquième. Mais par contre, Greenwood, il est impliqué dans 26 buts. Bouhiri, il est impliqué dans 16 buts, etc. Donc, si on veut pas non plus faire, même si la saison de cette année n'a pas été bonne, l'année prochaine, si on fait n'importe quoi à l'Olympique de Marseille, ça va être très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on ne va même pas viser la première partie de tableau. Miser sur des jeunes, pourquoi pas. Mais quand on sait la pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille, il va falloir que l'Olympique de Marseille soit très prudent
Christophe, la pression. Ça c'est certain, parce que les supporters ils sont pas stupides, réalité, ils la voient. Donc la pression, elle va tomber, ils vont pas commencer à se filer la pression à des mecs qui sont là et qui ont un niveau moyen, tu vois, pas enfin.
Mais après on peut comme Marseille l'a souvent fait, miser sur de la jeunesse. Alors miser dans le mauvais sens, dans le sens où ils achetaient de la jeunesse pour la revendre, pour faire une plus-value. Cette année, on est quand même sur une année de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en plus, une année de Coupe du Monde à 48 équipes. C'est-à-dire là, on va pouvoir piocher à l'étranger, etc. Chaque joueur aura une cote montante, puisque une grande majorité d'entre eux auront joué la Coupe du Monde. Donc finalement, brader, ok, mais racheter finalement avec quels moyens? Moi, je dis qu'il faut être très prudent dans ce qu'on va faire. On prend le cas de Greenwood. Si par le plus grand des miracles, on vend Greenwood à 40 millions, ce qui me paraît beaucoup, il faut déjà en redonner 40%.
Ouais, tu le vendras pas 40 millions.
Mais non, désormais les clubs
ils savent. Et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, les effets Coupe du Monde, en effet, c'est important de le dire, le mercato joue aussi sur les joueurs de l'OM.
Les effets Coupe du Monde, ça fonctionne sur des clubs qui ont de l'argent, parce que c'est des clubs qui sont pris à la gorge. Pour des clubs qui sont pris à la gorge, l'effet Coupe du Monde, c'est terrible, c'est encore pire.
Bien sûr, parce que
le club il a besoin d'oseille, donc c'est encore pire.
Le seul avantage que peuvent avoir, c'est-à-dire les joueurs de l'OM qui jouent à Coupe du Monde, et il n'y en a pas tant que ça.
Non.
Et en plus, alors Gouiri, c'est différent. Ouais. Ce Gouiri est un poste offensif, il peut prendre de la valeur si jamais l'Algérie, bon, j'y crois pas, mais l'Algérie.
Medina a du temps de jeu avec l'Algérie,
Il joue à gauche. Il joue arrière gauche. Donc, en effet, ces deux joueurs-là peuvent aussi prendre de la valeur, et puis d'un moment, et Dugas, on l'a tous vécu, même Benoît. Des fois, tu découvres des gens. Alors nous, on les découvre pas, parce qu'on les voit on les juge tous les week-ends, voire deux fois par semaine.
Bien sûr.
Mais les clubs européens, ils peuvent se dire putain mais oh Medina titulaire à gauche dans une équipe qui va peut-être être de nouveau championne du monde. Mmh. Imagine, bah écoute, ça vaut un petit billet quand même.
Merci à Christophe. Et oui, Wea avec les
Wea, ouais, mais Wea il est pas titulaire. Wea,
bah ça dépend, il était pour les matchs, il était pas pour le deuxième match des Américains.
Ça tourne beaucoup avec.
Merci à Christophe qui est venu au 32-16. Tiens, une info qui vient de tomber aussi, un communiqué de presse.
Les États-Unis vont pas aller en demi.
Jérôme, ça te concerne, ça va t'intéresser d'ailleurs. La ville de Paris et le Paris Saint-Germain lancent les travaux du comité de pilotage consacré au site du Parc des Princes et de la Porte de Saint-Cloud. C'est là que c'est la première réunion, le premier rendez-vous à l'hôtel de ville pour envisager un maintien du PSG au Parc des Princes et pourquoi pas l'achat du stade par le club.
Bah, de toute façon, on a un maire aujourd'hui à Paris qui fait tout. Pour ils vont l'agrandir, ils vont faire des loges, il va y en avoir une belle à mon nom là, ça.
Une loge hier 25. Peut-être non, mais peut-être un virage, pourquoi pas.
Non, un virage, okay. Je m'abuse pas.
Pourquoi pas.
Non, mais une loge, ça me suffit.
Une loge
une toilette.
OK, une toilette.
Pour l'instant, c'est vrai que je suis au-dessus des toilettes. Mais bon, après, écoute, ça peut évoluer. Hein.
19h27 sur RMC.
Tu le prendrais comment, Jérôme? Tu le prendrais comment s'il mettait une toilette
à la rigolade. À la rigolade.
Ah, j'espère.
Mais je le dis pas sérieusement. Je le dis pas en déconnant. Je suis au-dessus des toilettes.
Ah, vraiment?
Ouais. Ma photo au-dessus des toilettes.
Magnifique. Ouais, c'est une sorte d'hommage.
Ouais.
Allez, la VAR dans un instant de Rotten sans flamme. Est-ce que la nouvelle formule de la Coupe du Monde est absurde? On va vous rappeler tous les cas de figure. 3 points, ça suffit pour se qualifier pour les 16e. Et peut-être.
Ah, mais on se régale avec cette formule, c'est incroyable.
Un nul qui pourrait arranger deux équipes.
Quel suspense.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce jeudi soir. Excellente émission, hein. Je vous conseille de la réécouter en podcast. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme, mais surtout appelez vos amis, qu'on soit encore plus nombreux à être écoutés pendant encore une demi-heure avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et Benoît Boutron. Dans 15 minutes, ça sera le quiz.
Clément Brossard
aujourd'hui, ouais. Avec un super cadeau à vous faire gagner.
Un téléviseur Philips 50 puces 9000, immersion totale avec une image fluide et détaillée pour vos matchs, immersion vos totale. Films. Ou vos sessions gaming, l'image est magnifique, hein, grâce à l'Ambilight, c'est une nouvelle technologie.
Ah.
32-16 touche 4 ou quiz par SMS. C'est
bien qu'on le teste aussi.
Au 7-32-16. Et pourquoi pas?
Bah oui.
Pourquoi pas au Flora d'ailleurs ici? Bah non, en direct du Flora.
C'est important de
voir. Vous l'avez même en de Paris.
De tout voir.
Et c'est important.
Il y en a qui ont du mal à voir quand ils analysent un match. Donc
c'est vrai. On pourrait en envoyer une à Duga aussi, pourquoi pas?
Non, je parlais pas forcément de Duga.
Ah d'accord. Allez, 19h32.
Pourquoi tu m'attaques?
Toi, t'es t'as vu, c'est gratuit. C'est gratuit en fait. Voilà. Bam.
Je pense à toi, je vais te faire un cadeau, tu veux pas.
Ah, c'est dingue. Hein,
Allez, Jérôme Dugas, Ben, l'arbitre vidéo vous appelle.
Je veux venir à Paris.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Il y a trop de matchs qui ne m'intéressent pas. Moi, ma Coupe du Monde, c'est pas ça. Mais mec, va apprendre avant. Ne viens pas apprendre dans ma Coupe du Monde où je suis censé kiffer tous les matchs, me régaler. Je veux plus, j'en peux plus. Arrêtons ce cinéma, arrêtons ce cirque.
La VAR de Rotten sans flamme.
Ce format de Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui peine à convaincre, 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, les deux premiers qualifiés ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. L'autre changement, c'est le goal average particulier. On avait plus vu ça sur des dates et des tournois FIFA depuis très longtemps. C'est les confrontations directes qui sont plus importantes désormais que le goal average général. Résultat avec 3 points. Tu peux te qualifier pour les 16e de finale de la
Coupe du Monde. C'est qui avait dit ça au début de la
Coupe. C'est Jérôme Bretagne qui avait tout compris dans les calculs.
Merci.
Tiens, parlons-en avec Aurélien Tiercin qui va nous rejoindre. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Aurélien, tu nous rejoins, tu vas commenter ce soir Équateur-Allemagne. En tout cas, on va suivre le match sur RMC. Et du coup, les Allemands ont gagné leurs deux premiers matchs. Ils sont assurés d'être premiers. C'est quasiment un match amical pour eux ce soir. Eux, ils pourraient vraiment faire tourner l'intégralité de l'effectif.
Ouais, exactement, parce que tu l'as dit, avec la différence de but particulière, les confrontations directes, l'Allemagne a déjà battu la Côte d'Ivoire qui est la seule équipe à pouvoir égaliser à 6 points. Donc l'Allemagne est assurée de jouer le 29 juin à Boston son 16e de finale. Le seul truc, c'est d'attendre l'adversaire. Pour l'instant, c'est le Paraguay, mais bon, ça peut tellement changer qu'on verra plus tard. Et Julian Nagelsmann quand même a transmis le message que toute l'équipe ne tournera pas. Simplement Antonio Rüdiger rentrera dans le 11 à la place de Nico plutôt Schlotterbeck, mais parce qu'il est blessé, touché au ligament de la cheville. Donc le défenseur de Dortmund est forfait jusqu'à la fin de la compétition. Et on devrait voir également David Raum sur le côté gauche de la défense allemande. Mais sinon, Denis Sundav, lui aussi pourrait débuter. Mais bon, c'est pas vraiment du turnover, puisque il a déjà marqué 3 buts et délivré 2 passes depuis le début de la compétition. Donc il va compter pour l'équipe allemande. On va jouer le match à fond, parce qu'il faut aussi rappeler que l'Allemagne est sortie au premier tour des deux dernières Coupes du Monde. Donc perdre contre l'Équateur, ça pourrait faire tâche aussi, ça rouillerait un peu la belle dynamique de la machine allemande, qui a gagné 7-1 contre Curaçao et qui s'est rattrapée en fin de match contre la Côte d'Ivoire en gagnant 2-1. Donc c'est pas non plus un match pour rien, mais effectivement, même si tu perds 5-0, l'Allemagne sera qualifiée en tête du groupe.
Et puis une autre, merci Aurélien, une autre incongruité. Je vous raconte l'histoire de ce Algérie-Autriche qui nous attend dans la nuit de samedi à dimanche. Deux équipes à 3 points, Jérôme, Ben et Duga. Deux équipes qui peuvent se qualifier pour les 16e, mais qui ont plutôt intérêt à terminer 3e de poule. Un nul qualifie les deux. Celui qui va terminer 2e va affronter l'Espagne dès les 16e de finale.
Quelle belle.
Celui qui va terminer 3e va affronter les États-Unis, puis potentiellement le vainqueur d'Égypte-Tchéquie. Alors vous n'avez pas les calculs, vous m'avez sauté dessus en début de semaine. Mais là, c'est quand même dingue.
Les États-Unis.
De dire, tu termines deuxième et bim, tu prends l'Espagne, alors que le troisième va aller plutôt prendre les États-Unis, puis après le vainqueur d'Égypte.
Et donc alors.
Eh ben, c'est quand même complètement dingue, cette formule avec trois équipes calculées. Enfin, qualifiées.
Oui, mais ça, on le savait, plus ou moins. Mais c'est quoi ton raisonnement?
Mon raisonnement, c'est de dire.
C'est que tu penses que
ils vont arriver, tout le monde aura joué. Un nul qualifie les deux, et il peut même avoir du calcul entre les Algériens et les Autrichiens de se dire, ah ben non, finalement, nous, peut-être qu'il vaut mieux qu'on termine troisième, parce qu'on va esquiver la
première. Donc, pour terminer troisième, il faut quoi, en fait?
L'Algérie, si jamais les choses en restent là, il me semble que c'est l'Algérie qui termine.
L'Algérie qui est troisième.
Exactement, troisième de poule.
Donc,
un nul, et c'est l'Autriche qui finit deuxième.
D'accord, donc.
Donc les Autrichiens devraient perdre.
Mais ça a toujours existé, ça, que tu
joues. Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est renforcé par le fait que désormais il y a trois qualifiés. C'est ça la différence.
Oui, c'est renforcé. Ouais, c'est encore plus bête. Oui, on le sait, ça, on n'a pas attendu ça pour se rendre compte que c'est encore plus bête leur nouvelle compétition.
Bah oui. Oui, quand tu fais des 16e de finale, oui.
Moi, mon poulet, quand je regarde la Coupe du Monde, je m'attends à voir le must mondial qui se fait. Voilà, moi, c'est ça, je veux voir tous les matchs. Je ne regarde pas une Coupe du Monde pour découvrir des équipes. Si je veux découvrir des équipes, je vais les découvrir
avant. Regarde les matchs de qualif.
Exactement. À la Coupe du Monde, je veux voir le must du must qui se fait en football. Là, c'est pas le cas, c'est plus le cas, et ce sera plus jamais le cas. Voilà. Après, on te sert des matchs. C'est pas possible de regarder 104 matchs. Personne va pouvoir regarder 104 matchs. Donc, on t'oblige à ne plus regarder les matchs, parce que moi, 104 matchs, je peux pas les regarder. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Le football, je fais une overdose, j'en peux plus. Donc, on te dit, mais écoute, si ces équipes-là, elles t'intéressent pas, mais t'as qu'à pas les regarder. Mais c'est pas ça l'essence même de la Coupe du Monde. Ce que je veux dire, c'est le foot et le must du must qu'on est censé te démontrer, te montrer ce que c'est, le progrès des équipes, des nations, des tout ça. Enfin, c'est un accomplissement. Une Coupe du Monde, c'est un rêve ultime, c'est un rêve absolu. C'est pas ce qu'on nous sert là. Alors je les entends, je les vois, les belles histoires. Et Neymar, on m'explique que Neymar, ça y est, il a joué 20 minutes, c'est extraordinaire.
Donc
on est obligé de faire des histoires. Voilà, on est obligé de faire des histoires, on est obligé de créer des histoires. Alors il y a l'histoire Messi, ok, super, magnifique, extraordinaire. Tant mieux pour la compétition. Là t'as Mbappé qui est à la hauteur aussi, c'est sa compétition, tant mieux. Et on nous sert des matchs qui ont aucune valeur. Bon. Ok, mais personne n'est là pour rien dire. J'ai lu encore Infantino qui nous expliquait que la post-fraîcheur qui est sifflée à chaque fois qu'elle a lieu par les supporters, il nous explique que c'est pour le bien du football, que c'est un choix sportif. C'est-à-dire que
c'est pas du tout marketing.
Mais non, mais il s'est trumpéisé, lui. Il nous fait croire que le pire du pire, c'est bien. Non mais c'est un truc de fou. Donc il nous et voilà, il y va tout droit, le mec. Il nous prend pour des imbéciles jour après jour, match après match, et ça continue. On nous sert la soupe et voilà, on nous dégoûte du football.
Non, mais
le principe, il est fait pour nous dégoûter du foot.
Mais là où t'as pas tort, si tu veux, c'est vrai que sur les 104 matchs de compète, on est des passionnés de foot. Moi, je suis un grand passionné de foot. Je suis un malade de foot. Je suis prêt à me lever la nuit et tout ça. Mais là, la vérité, sur le premier tour, je vais pas me lever la nuit. Hein.
Jérôme, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on veut servir le foot aux jeunes. On veut leur servir des bouts de match. On veut pas leur servir des matchs. On veut leur donner que des résumés. Donc, s'ils voient des bouts de match, ou même s'ils voient pas certains matchs sur une compétition aussi importante que la Coupe du Monde, c'est pas grave. Le football, tu vas prendre un peu de football par-ci, un peu de basket par-là, un peu d'influenceur par-là.
là, un peu de voilà. Et aujourd'hui, tout ce qu'on te sert, on va jamais dans le profondeur, on va jamais essayer de comprendre le foot, l'équipe qui a progressé, les joueurs, pourquoi ils jouent, les joueurs qui jouent pas, on s'en fiche de tout. Et voilà, aujourd'hui, la société est devenue comme ça. Et je pensais que nous, le football, ça pouvait être un espèce de sanctuaire où on conserverait notre joie, notre plaisir, notre joyau, notre kiff du foot, mais pas du tout. Le football, il est devenu voilà, c'est que du business et on nous sert de la daube et on nous oblige à la manger cette daube. C'est horrible.
Non, mais là, Benoît, où c'est vrai que je me rapproche des propos de Dugas, c'est que en plus avec cette pause fraîcheur, donc là on arrive quasiment à des cartons. Donc ça pousse, si tu veux.
C'est long.
En effet, non, mais ouais. Ça pousse, si tu veux, les gens à la consommation du foot. Si tu veux, ils regardent le premier carton. Et puis après ils zappent et peut-être que si le match il est pas bon, ils reviennent pas dessus.
C'est vrai que ça pousse à zapper. Hein.
Eh oui.
Mais stop.
Ouais. Mais non, il y a des joueurs qui ont pris des cartons jaunes parce qu'ils gagnaient du temps sur une sortie. Ouais. Parce que j'ai blessé. Donc on leur met des cartons jaunes parce que les mecs, soi-disant, ça casse le rythme du match. Mais par contre, on te fait une pause fraîcheur.
Ouais, oui, bah, oui. Il y a des trucs très compliqués.
La mi-temps dans la mi-temps.
Ouais. Mais non, toi, Benoît, toi, tu.
Non, moi, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, j'ai du mal. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai du mal à être vraiment hypé par la Coupe du Monde. J'ai une certaine. Je la regarde parce que on est là sur RMC et qu'il faut regarder les matchs.
Pour intérêt.
Ouais. Mais il y a beaucoup de matchs. Il y a des matchs. J'ai pas envie de les voir. Je vous dis sincèrement, me lever à 3h ou 4h du matin.
Quels sont les matchs marquants de ce premier tour pour l'instant ?
Moi, comme qu'est-ce ça, il y a marqué quoi, comme l'Angleterre. J'ai bien aimé le premier match de l'Angleterre. Maroc, Brésil.
Allemagne-Côte d'Ivoire.
Allemagne-Côte d'Ivoire, très beau match. Ouais. Ouais.
À limite, j'ai presque kiffé le Espagne-Cap-Vert. Mmh. Ouais. Parce que par rapport à la performance du Cap-Vert.
Brésil-Écosse avec l'entraînement.
Grâce à Neymar, ouais, qui nous a tous fait rêver. Ouais,
pour les sentiers. Comme habituel.
Que des matchs à 18h, Benoît.
Ah bah oui.
Il n'a pas vu à 3h, je t'annonce.
Ah bah non, mais c'est sûr.
Qui, moi ?
Oui.
Ça va pas, quoi.
À 3h,
j'étais là pour l'équipe de France, là.
Oui, d'accord.
Ah oui, bien sûr.
Moi, j'étais là, la pause de 3 heures, là, qui a duré 3 heures, j'étais là.
T'étais là, t'as regardé jusqu'à la fin ?
Algérie, ah oui, j'ai réussi à la fin. Ben, j'étais même frustré parce qu'en fait, je voulais faire le double écran avec le Sénégal, Norvège. Et finalement, on n'a pas pu. Donc, il a fallu regarder.
Algérie-Argentine à 4h du matin, tu l'as regardé ?
Non, j'ai regardé le lendemain.
J'étais là. On a regardé le Brésil-Maroc aussi.
Ah, bien sûr.
C'était pas mal. Non, mais c'est vrai. Ouais. Après, je suis en train de voir les matchs qui étaient pas mal.
Non, mais est-ce que ton plaisir
est en Bosnie ? La Bosnie a perdu contre l'Italie. Enfin, la Bosnie a éliminé l'Italie.
Ouais, l'Italie, t'imagines, toi.
Ben, est-ce que tu vas prendre au jeu les 16e.
Non, mais moi j'attends justement qu'il y ait des confrontations qui voilà. Valent la peine, quoi. En fait, des vrais matchs de Coupe du Monde, des vrais matchs à Argentine, un vrai gros match.
En fait, avec
pour le moment, c'est un peu long.
Le truc, c'est que cette formule la longueur va continuer parce que les 16e de finale,
oui,
on regarde les affiches. Il y a des affiches, franchement.
Ça va être 8e, 4e.
Afrique du Sud-Canada.
Afrique du Sud-Canada. Il y a Iran-Australie.
Pour l'instant.
Ah, mais je regarderai le résumé, je suis désolé.
Eh oui.
Mais en plus, là où il y a une arnaque, en plus, c'est que tu vends aux joueurs et tu vends aux supporters. Là, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, ils vont se qualifier en phase de poule. Oui. Pas parce qu'ils sont qualifiés en phase de poule, parce que tu te retrouves en 16e. Ça se trouve, ils vont se faire éliminer en 16e. Tu leur vends. Ben oui, alors, tu te rends compte, c'est incroyable. Bon, t'as l'impression qu'ils font des exploits.
Oui, ça, c'est vrai. Il n'y a plus d'exploits.
Et l'année prochaine, quand tu vas sortir à élimination, tu vas y avoir des 32e de finale. Quand dans 4 ans, il va y avoir des 32e de finale, tu vas dire, la Norvège, regarde ce qu'il a dit Haaland. Il a dit de toute façon, nous on s'en fiche maintenant. On a réalisé l'exploit de se qualifier pour. Mais non, mais mec, t'es sérieux.
Mais t'as non, mais là où t'as raison, Nuga, c'est que là, je regarde le groupe du Mexique. Le Mexique a fait 4 points plein. L'Afrique du Sud en gagnant un match, donc s'est qualifié.
Hier, la nuit dernière.
Et la Corée du Sud qui a écrasé la République tchèque 2-1. C'était 2-1, je crois.
Ouais, dès le premier match.
Voilà, dès le premier match. En fait, ils ont perdu piteusement hier en étant catastrophiques.
Ouais.
Ils vont certainement se qualifier pour les 16e.
Ouais, c'est fou.
La Corée du Sud.
Ouais, mais vous dites rien.
Mais arrête.
C'est sûr. Allez, 19h43.
Il faut faire un débat. Est-ce que c'est aux joueurs de protester, de faire grève ? Vas-y,
Benoît. On l'a déjà fait.
Ouais, ouais,
on l'a déjà fait il y a des semaines. Ouais. Et ouais. Ça a marché, hein. Ouais. Ça a bien marché, c'était fou. Bon, en tout cas, encore des matchs à suivre ce soir sur RMC à partir de 22h. Tous les matchs en direct et commentés. Si, tu peux les écouter. Équateur Allemagne, c'est pas mal ce soir, même si bon, c'est l'équipe B pour l'Allemagne.
Équateur
Allemagne. On va regarder.
Et demain, il y a France-Norvège à 21h sur
On ne va pas regarder Équateur Allemagne. Bien sûr que non, on va pas regarder. Ils sont qualifiés, les Allemands, et l'Équateur, on s'en tape.
Mais
bien
sûr, on va regarder Côte d'Ivoire.
Non, moi, je vais regarder Curaçao, Côte d'Ivoire.
Apparemment, il y aura des actions.
Non plus.
Il y aura des buts, si, on veut voir des buts, nous.
Non, même pas. Même les buts, ils me les donnent, je les prends pas. Non, je veux pas. Non.
Ce soir, il y a Spider-Man, moi je vais regarder ça.
Et moi je vous propose Japon-Suède à 1h du matin si vous voulez.
Ouais.
Ou Tunisie-Pays-Bas, c'est à la même heure.
Oh, je vais mettre les alertes.
Allez, le quiz de Roten sans flamme dans un instant. Tous contre Roten avec Clément Brossard. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h46 sur RMC. On est à 10 minutes de la fin de Roten sans flamme du soir avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. Et ben c'est l'heure du quiz. Mais aujourd'hui, c'est pas le quiz de Louis Gerbier, c'est le quiz de Clément Brossard.
Et on y va.
On y va avec deux auditeurs, un super cadeau à vous faire gagner. Allez go.
RMC. Tous contre Roten.
Et on est ravis de retrouver Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Salut Clément.
Ça a forcément
vont s'affronter
mieux.
Ce soir. Bon, certainement, ça n'en a aucun doute.
Il n'y a pas de doute.
Vont s'affronter ce soir pour un magnifique téléviseur Philips, Julien et Romain. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Romain, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Le reste du monde.
Allez, et Julien sera avec
pour toi.
Jérôme. Voilà. Quel est le...
Allez Julien.
Quel est le thème du quiz? Vous
avez abordé la victoire du Brésil de Neymar dans l'émission du jour. Donc nous, on va prendre place sur le banc, endroit que vous avez bien connu tous les trois, notamment Duga, Costil, avec un quiz 100% Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. Attention Jérôme, tu vas devoir faire tout le quiz avec un sourcil levé. Libre à toi pour le choix du sourcil. Benoît, je compte sur toi pour vérifier.
C'est le gauche.
J'arrive pas ça.
Ouais, t'arrives pas.
Bon, non, petit échauffement en tout cas les garçons, pour pas se claquer. Question Luis Enrique.
Vous savez combien de points nous avons moins que l'année dernière? Erreur. Vous n'avez pas étudié,
La question Luis Enrique.
Ah, j'espère que vous avez bien étudié, pas d'erreur possible. En tant que joueur et entraîneur confondu, combien de Ligue des Champions Carlo Ancelotti a-t-il remporté? Joueur et entraîneur. C'est un nom.
7.
Bonne réponse.
C'est moi.
Jérôme Roten, juste avant. Jérôme, juste avant.
Question Cristobal.
Ah bon?
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
La pregunta Cristobal.
Question simple, il a quel âge, Carlo? Quelle date est né Carlo? Comment dire en espagnol?
62.
Ah, pas loin.
63.
Non.
Ah bah,
67.
67. Oui, 67.
Oh, un partout.
Comment ça donne quoi, 67 en espagnol?
Oh, du gars.
67.
C'est pas mal. C'est pas mal, du gars.
Pourquoi il rigole, c'est pas ça?
Si, c'est pas mal. Ça passe largement. Question petite.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe.
Manu est très occupé en ce moment, mais il va revenir la semaine prochaine.
Mais il peut plus faire les trois.
Bah non, l'attend. C'est pour ça qu'on a choisi une question en fonction de un des trois et on a choisi voyage.
Cramé.
Dans combien de pays?
Là, je le vois passer en vélib, là, il est cramé complet. Regarde, il n'arrive même plus à monter l'avenue.
Dans combien de pays, les amis, Carlo Ancelotti a-t-il entraîné avant de prendre en main la sélection du Brésil?
4.
Non.
3.
Non plus.
Pas 5.
Eh oui, le top 5 européen, Italie, Angleterre, France, Espagne, Allemagne. Il a quasiment tout fait, Carlo. Petite question flash.
Jeu 1 pour Jérôme et Julien.
Benoît, ça va?
Vous pouvez prendre.
Non, je comptais, j'ai fait le Bayern.
Non, mais du gars, je te fais la scène, il était en train de compter sur ses doigts. 1, 2. Et tu sais que t'as le droit de parler, Benoît, parce que ça se voit pas, en fait.
Ah, mais il y a un décalage avec Benoît, c'est pour ça.
Ah, non, mais tu levais la main, tu levais le doigt.
T'as fait quoi,
toi? Ah, mais non, j'ai zappé qu'il avait été en Bundesliga, pardon, c'est bon. J'ai arrêté en CM2.
Benoît, ça l'a besoin de lever le doigt. Dans quel club?
Le plus brillant de nous.
Vas-y. Club a-t-il commencé sa carrière de joueur, Carlo Ancelotti? Il en a
Milan,
fait trois des clubs.
Non, pas Milan.
Il a terminé à Milan.
Ouais.
Allez, c'est forcément un club
Parme,
italien.
Parme.
Oui, Parme.
Parme. 2-2.
Eh oui, le jambon. Question auditeur.
Le jambon. N'importe quoi.
Le jambon de Parme.
Je vois pas le rapport.
C'est excellent, c'est un hommage. Parme.
Non, mais c'est un hommage à Coach Courbis. Vous vous rappelez pas la finale de la Coupe de l'UEFA?
Ramon.
Julien, Romain, question auditeur. On est parti.
Julien, déchire-le.
Le fils de Carlo Ancelotti, Davide, a trouvé un nouveau club comme entraîneur.
Lille.
Oui, alors c'est allé très vite. Hein.
C'est Julien.
C'est Julien.
Qui en premier?
Non, c'est moi. Non, c'est Julien.
La bagarre. C'est Julien en premier. Hein.
Attendez, Julien, là, monsieur Vessière.
Là,
monsieur Vessière en
faisant une pour les départager. En faisant
ouais, la question n'était même pas finie. Bah, pareil.
Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre?
L'arbitre me dit c'est Julien, mais.
Ouais.
Bon, c'est Julien alors. C'est Julien.
Point pour
ça
Julien.
Fait 3-2 pour Julien et Jérôme.
Allez, ouais.
Allez, c'est pas grave.
Ben, c'est pour toi celle-ci. Question Costil.
Oh oui, Greg, il est sort. Oh oui, main opposée Richard. Il est de retour. Oh, ça suffit. Ouais,
ça n'a pas duré longtemps.
Ça suffit. Qui était le gardien du Paris Saint-Germain lorsqu'Ancelotti était l'entraîneur du PSG?
Sirigu.
Oui.
Ah,
mais j'ai affaire à un tifosi, je peux faire quoi?
Tifosi.
Ah, mais bon, c'est ta génération.
Ça va, avant qu'elle soit terminée, la question, il a répondu.
Bah oui,
c'est pour Paris, c'est mort. Je suis mort.
T'avais les mêmes réflexes à Bordeaux ou quoi?
Écoute, pour
j'allais un peu plus vite.
Ah ouais.
Et 4-2. Quand Ancelotti était à Paris, je jouais encore. Hein.
Du gars, il peut pas tout faire dans ce coup.
Eh oui, je jouais encore.
La bagarre, question Olmeta. Ah
ouais. Tu jamais en tes nerfs.
Eh ben, il est logique.
Eh ben, tu emmènes crochet du droit. Tac, tac.
C'est Ouraken. Les deux touches.
Andrea Pirlo est le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti durant sa carrière. Qui est le deuxième joueur aligné à 323 reprises par Ancelotti? Derrière Pirlo.
Gattuso.
Oui, Gattuso.
Oh,
Rino, nouvel entraîneur de la Lazio.
5-2.
Oh là là, la branlée.
Là, c'est beaucoup.
Bon, ça fait beaucoup. Il fait un peu chaud. Pause fraîcheur. Vous êtes comment sur la Coupe du Monde? Ça travaille un petit peu en ce moment là.
Ça bosse dur.
Ah Benoît, il voit les matchs à 3h.
Vraiment, on est à fond. Faut attaquer là.
Bon, ok, donc vous étiez tous devant le match de la nuit en France à 3h du matin. Les deux matchs Afrique du Sud, Corée du Sud et Mexique, République tchèque.
Bah évidemment.
Bon, bah parfait. Bien sûr. Combien de buts on a vu sur ces deux matchs?
Alors, quoi? On truquait
4.
4 buts, oui.
Oh, c'est énorme.
3-0, 1-0.
Incroyable, quel cadeau.
3-0 pour le Mexique, 1-0 pour la
France. Le lendemain,
ça vaut 2 points là ou non?
C'est un point. Arrête,
un point ou deux là? Quoi, 2 points? Bah, je sais pas. 5-3.
La question larguée.
36-15, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
On remonte le temps, saison 1988-1989. Carlo Ancelotti remporte sa première Ligue des Champions comme joueur. C'était face au Steaua Bucarest avec l'AC Milan. Qui est le capitaine de cette équipe milanaise lors de cette finale? C'est incroyable le niveau ce soir.
Ça va trop vite.
Ah ouais, là c'est fort.
Et
bravo.
Franco Baresi.
6-3.
Yes.
C'est moi là.
6-3. Non, c'est juste ce point avant.
C'est pas du gars, moi j'ai Jérôme à côté de moi, j'ai Jérôme avant.
Parce qu'il y a décalage, il y a 3-4
secondes. Non mais l'arbitre il est corrompu là, même l'arbitre en régime.
Non mais il doit y avoir un décalage.
Ah il y a un décalage.
Mais bon, c'est
bah, qu'est-ce qu'on fait? On rend le point.
Bon, on le prend pas le point.
Allez, on rend le point. Allez, 5-3, on reste à 5-3.
La question con.
Allez.
Ah ben là, ils sont avantagés.
Qu'est-ce que vous êtes con? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
RMC, la question con.
Qu'est-ce que vous êtes con? Quel ancien attaquant coaché par Carlo Ancelotti savait très bien mentir ou raconter des histoires?
Baggio. Inzaghi.
Simone.
Jeu de mots.
Inzaghi. Mais qui Inzaghi? Pippo Inzaghi.
Pippo.
Et oui.
Redoutable
finisseur.
Il n'existe pas l'autre.
Vainqueur de la Ligue
5-4.
Des Champions. Pas gentil pour Simone.
Grâce à Ben Costil et Christophe Dugarry, il y a 4 points d'écart.
Ouais. C'est vrai que l'autre. Allez, stop.
Alors, on tourne.
Stop.
Le score est remis à 0.
Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible!
Aïe.
Ben, c'est ton moment là. Allez, balle de match.
C'est là qu'il faut intervenir.
Allez, balle de match.
Allez, la question, elle est flash. Le Mister est un fan de football, bien sûr, mais il est aussi investi dans un autre sport. À vous de me dire lequel. Dans quel autre sport est investi Carlo Ancelotti?
Le volleyball.
Basket?
Non. C'est un sport.
Bill Bokeh.
De vitesse. On peut le dire ainsi.
L'équitation.
Oui, l'équitation, le sport épique.
Incroyable. Christophe Dugarry,
c'est un champion.
Immense Dugarry ce soir. Carlo Ancelotti qui possède une écurie de course, figurez-vous.
Ah, c'est incroyable. Et grâce à Benoît Costil, c'est Romain qui va remporter ce magnifique
procès,
cadeau.
Voilà. Il va faire des cauchemars cette nuit. Dugarry, il va se lever la nuit. Dugarry, arrête de rêver de les taper. Dugarry, arrête. Je vous embrasse, Jérôme. Je vous embrasse, les copains. Merci beaucoup.
Bravo, Duga. Bravo, Ben.
Bravo, Romain. Pas, moi.
Qui remporte ce magnifique cadeau. Bravo.
Tous contre Roten sur RMC avec le téléviseur Philips 50 PUS 9000. Technologie Ambilight, image QLED fluide, un spectacle immersif à chaque instant.
Merci Benoît, merci Dugas, merci Clément Brossard qui est avec nous.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Merci Clément, bravo.
C'est l'after en direct des États-Unis, en direct de New York avec Benjamin, Daniel Riolo et Walid Acharchour. Et nous on revient demain, c'est le match de l'équipe de France demain.
Et demain on est en avant-match de l'équipe de France, ça va être fabuleux, grande émission demain encore en direct du Flora dans le 9e arrondissement de Paris sur les grands boulevards. Venez nombreux, on lance le dernier match de l'équipe de France. Eh oui, il est important, on joue la première place demain, donc soyez au rendez-vous à partir de 18h, vous saurez tout dans Rotten sans flamme, les compositions d'équipe, toutes les petites dernières infos de l'équipe de Guy Stéphan de demain, voilà, et encore une pensée pour Didier Deschamps, endeuillé avec la perte de sa maman, voilà, gros bisous, bonne soirée à tous, et demain 18h, on est là.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.